Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Rien ne sera comme avant, le monde d'après ne sera plus le même, demain tous différents. Voilà quelques-unes des phrases que l'on a entendues à l'occasion de cette pandémie. Des phrases qui disent le désir de beaucoup d'une autre vie, d'un autre rapport au temps, à la création, aux autres. Des hommes et des femmes ont pris une longueur d'avance d'une certaine manière et travaillent depuis des années à l'avènement du monde de demain. Des hommes et des femmes comme ceux du mouvement Colibri initié par Pierre Rabhi, agriculteur écologiste, penseur de la sobriété heureuse, chantre rien moins que d'un changement de civilisation. Les Colibris, un mouvement que je vous propose de découvrir ensemble ce matin. Les Colibris, Kézako, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On va voyager avec vous, donc nos invités. Grégory David, vous êtes responsable de la communication et partenariat du mouvement Colibri. Bonjour.
C'est ça, bonjour.
Véronique Tirbois, vous êtes chargée de communication et vie associative de l'éco-centre Pierre et Terre dans le Gers qu'on va découvrir. Bonjour.
Bonjour.
Et Béatrice et Emmanuel Birloise, vous êtes en plateau, heureusement, vous êtes membre de l'éco-village et collectif en Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir tous fait le déplacement, en tout cas à nos deux invités qui viennent de Haute-Garonne, mais d'avoir pris du temps pour nous présenter donc les Colibris. Allez, une question, on va dire, générale pour commencer. Grégory David, est-ce que quelque part, sans froisser personne, pendant ce temps de pandémie et d'isolement, quand vous lisiez dans la presse, vous et les autres, on va dire, membres engagés ou salariés du mouvement Colibri, que le monde allait changer, le monde de demain serait différent, qu'il fallait un changement de civilisation, est-ce que dans le fond vous vous frottiez les mains et vous disiez « Ah, enfin !»
Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. On ne s'est pas frotté les mains en disant « Il y a un super business et on a un boulevard devant nous ». On ne s'est pas du tout dit ça. Je pense qu'on a été un peu sidéré comme la plupart de nos concitoyens. Et on a eu beaucoup de demandes de journalistes qui se sont intéressés à justement des modes de vie différents, qui ne soient pas dans des villes qui étaient devenues encore plus inhospitalières avec cette crise. Et on avait tous les jours nos amis et nos contacts qui vivent justement des modes de vie alternatifs, nous dire que finalement ils mesuraient la chance qu'ils avaient d'être dans des lieux qui étaient au cœur de la nature, avec de l'espace, avec une certaine autonomie qui leur permettait de sortir un peu moins. Et peut-être, pour ceux qui sont dans des écolieux, des habitats participatifs, maintenir une certaine convivialité.
Certaines sociabilités.
Et ne pas être seul.
On entend donc que vous n'étiez pas mordant, et évidemment vous ne vous réjouissez pas du malheur des autres, et c'est tout à votre honneur. Alors lançons-nous dans la découverte donc des colibris. Peut-être faut-il commencer par présenter ce petit oiseau qu'est le colibri, et nous dire pourquoi vous avez choisi cet emblème.
Alors oui, évidemment, colibri tire son nom d'une légende amérindienne dont on a un peu de mal à trouver la source, mais qui est racontée par Pierre Rabhi, qui est le fondateur de l'association depuis longtemps, et qui dit que voilà, un jour il y a eu un immense incendie de forêt et tous les animaux qui étaient terrifiés, couraient en tous sens et se sentaient réellement impuissants. Et que seul le petit colibri s'activait en allant chercher des gouttes dans la rivière pour les jeter sur le feu. Et là, ça a un peu agacé le tatou qui lui dit « Mais colibri, t'es pas fou, tu crois que c'est vraiment avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répond « Je le sais, mais je fais ma part. »
Alors ça, c'est pour la présentation de l'oiseau. On peut dire aussi qu'il est tout petit et qu'il est plutôt, on va dire, tonique, puisqu'il a un battement d'aile absolument phénoménal. Il arrive à se déplacer un peu dans tous les sens, en avant, en arrière. Bref, je dis ça parce que parfois, ça fascine les enfants. Le mouvement des colibris est né donc en 2007, sous l'impulsion d'un certain Pierre Rabhi. Peut-être faut-il commencer par présenter cet homme qui est Pierre Rabhi, parce que les colibris et Pierre Rabhi, ça fait tout un. Je disais donc rapidement en début d'émission que c'est donc un agriculteur écologiste qui est donc qui a été un pionnier en la matière, un homme d'origine algérienne, un essayiste, un romancier. Comment vous nous présenteriez cet homme, ce paysan, poète et prophète ?
Comment je le présenterais? Je pense qu'il a su séduire, enfin il séduit un nombre croissant de personnes parce que il représente, je pense, une certaine exemplarité dans son parcours.
Alors présentez son parcours pour commencer, parce que le fait qu'il puisse s'intéresser ou fasciner, on comprend, mais dites-en nous un petit peu plus.
Écoutez, il est né en Algérie, dans une oasis algérienne, d'une famille très modeste. Et à la mort de sa mère, son père l'a confié à une famille de Français, tout d'abord en Algérie, puis en France, et lui a offert une éducation française. Il s'est frotté au monde du travail tout d'abord par l'usine, puis par l'agriculture, et il a été, je pense, au fil de ses rencontres assez horrifié par ce modèle mécaniste et aliénant de l'humain et destructeur de la nature.
Alors l'agriculture écologiste, qu'est-ce que c'est? Quand on dit que c'est un pionnier, comment vous nous le présenteriez? L'habitude de dire que la terre est sa mère et sa fille.
Ouais, je pense, et là on rentre dans les grands principes de sa pensée. Je pense que il y a à la base l'humilité face à la planète, face à la nature, face à la création en quelque sorte. Aujourd'hui, malgré nos progrès, on ne comprend qu'une petite partie de cette nature. Et malgré tout, on est aveuglé par notre surpuissance, alors que une agriculture respectueuse passe par une posture d'attention au milieu, d'observation des processus à l'œuvre, et une intervention la moins perturbante possible. Alors que la posture moderne, entre guillemets, c'est tout le contraire. C'est la domination, c'est gaver les plantes d'engrais chimiques, c'est sélectionner génétiquement pour avoir le meilleur rendement et éradiquer toutes les espèces qui pourraient avoir l'audace de croiser notre chemin. Donc des pratiques comme celles qu'a pu énergétiser Pierre Rabhi, comme l'agroécologie, ou encore, on en parle beaucoup, de la permaculture, fonctionne à l'inverse, en faisant avec la nature et non pas contre.
Alors, on y reviendra, parce que certains de nos invités pratiquent la permaculture chez eux, dans leurs éco-centres ou dans leurs éco-villages. Je disais en introduction que Pierre Rabhi va plus loin que de promouvoir donc un nouveau rapport à la création ou une nouvelle agriculture. Il prône un changement de civilisation, j'ai retrouvé des termes, changement de paradigme aussi, ça fera écho aux propos du pape François qu'on cite souvent à cette antenne dans l'encyclique Laudato Si. Il faut en finir, je cite toujours, avec le mythe de la croissance infinie et rentrer dans la sobriété du désir. Est-ce à dire que vous, les colibris, vous militez d'une certaine manière pour un changement de civilisation?
Écoutez, je pense que oui, et une des valeurs fortes que porte Pierre Rabhi et que nous portons à Colibri aussi, c'est la sobriété heureuse, qui est le versant plus positif de la décroissance, comme remède effectivement à cette idéologie, ce mythe du toujours plus, de la croissance infinie. De dire On nous traite souvent d'idéalistes, de bisounours, alors que je pense que c'est au contraire, enfin nous pensons que c'est au contraire les chantres du progrès, les chantres de cette croissance indéfinie qui sont des idéalistes, parce que ce n'est pas possible. On le dit, les philosophes antiques, enfin les philosophes en général le disent, il n'est pas possible de croître indéfiniment, sur le plan matériel en tout cas, sur une planète qui est finie.
Alors les Colibris, quand on se balade sur... Donc c'est un grand mouvement citoyen qui a été initié donc en 2007 autour de cette figure. Vous avez, on va dire, trois caps, en tout cas, c'est que vous donnez: relier, inspirer, soutenir. Il y a de multiples réseaux locaux, des bénévoles et de multiples lieux. On les découvrira donc avec l'éco-centre Pierre et Terre et puis donc les collectifs du Gers et de la Haute-Garonne. C'est un mouvement qui se développe. Ce sera ma dernière question, Grégory David, avant qu'on plonge dans le concret. Je ne sais pas, il y a de plus en plus d'éco-lieux, d'éco-villages. Parlez-nous un peu de cette myriade d'initiatives. Est-ce qu'elle grandit et si oui, est-ce à vitesse exponentielle?
Alors à vitesse exponentielle, peut-être pas. Mais c'est vrai qu'en 2007, moi j'ai eu la chance d'arriver en 2008 dans ce mouvement. Et voilà, il y avait tout au plus quelques milliers de sympathisants. Aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Colibri, c'est une association qui est au service des citoyens. Donc, par exemple, avec des formations en accès libre, qu'on appelle des MOOC. Et aujourd'hui, ce projet, qui est l'Université des Colibris, c'est plus de 100 000 personnes qui ont suivi des formations, que ce soit dans la conception d'écolieux, dans la démarche zéro déchet, dans l'éducation alternative, dans la gouvernance partagée. Donc oui, on est en croissance. Effectivement, vous parliez d'écolieux. Pierre Rabhi les appelait les oasis, et puis on a repris ce terme. Aujourd'hui, c'est près de 1000 oasis, 1000 écolieux en France que nous recensons, que nous accompagnons et que parfois nous finançons. On en dira plus un peu plus tard peut-être.
Et que nous allons découvrir. Je continue de citer Pierre Rabhi d'une certaine manière. Pierre Rabhi qui a l'habitude de dire, puisqu'il n'est pas décédé, nourrir sa famille et sa communauté, c'est le fondement de toute culture. Et qui rappelait que les pays industrialisés aujourd'hui marchent grâce au bas prix des énergies et des matières premières, qu'on pouvait nourrir 12 milliards d'êtres humains, et je lui aussi, que ce n'était pas la question et le problème. On peut donner aussi peut-être un livre fort connu de Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, paru aux éditions Babel Actes Sud. On va faire une première pause et puis on va retrouver nos autres invités pour découvrir deux lieux, deux oasis, l'éco-centre Pierre et Terre dans le Gers et donc l'éco-village collectif en Haute-Garonne. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les colibris, Kézako, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce vendredi matin, avec nous Grégory David, responsable de la communication et partenariat du mouvement Colibri, qui était avec nous en début d'émission, Véronique Tirbois, chargée de communication et vie associative de l'éco-centre Pierre et Terre dans le Gers, et Béatrice et Emmanuel Birloise, membres de l'éco-village et collectif en Haute-Garonne. Alors on va commencer à voir concrètement certains de ces lieux, donc du mouvement Colibri, je le rappelle, pour ceux qui par hasard prendraient cette émission en cours de route. Le colibri, c'est un petit oiseau qui essaye d'éteindre la forêt avec des petites gouttes d'eau. Petit oiseau fort véloce et mouvement donc, qui prend de l'ampleur. Grégory David, en début d'émission, disait qu'aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 personnes qui fréquentent ce mouvement et près de 1000 lieux. Alors, Véronique Tirbois, on s'envole, on va dans le Gers, dans l'éco-centre Pierre et Terre. Est-ce que vous pouvez commencer par nous faire, on va dire, une petite visite guidée, vue du ciel, comme si on arrivait avec un drone de ce lieu ?
Avec grand plaisir. Donc, bienvenue à Riscle dans le Gers, donc, sur un site qui fait 2,2 hectares, un site qui est l'ancien site du lycée agricole de Riscle, qui a bien changé, puisque voilà, la nature aussi peut reprendre ses droits. On a un grand bâtiment, donc le bâtiment de l'éco-centre qui est exemplaire, performant et démonstratif dans les choix des matériaux qui ont été apportés pour fabriquer ce bâtiment, performant parce qu'on n'a pas besoin de chauffage, on n'a pas besoin de climatisation et on y est très bien. C'est que des matériaux sains, locaux, avec des techniques qui sont remises à l'ordre du jour. Donc je vous invite à venir le visiter.
Ouais, et puis on va s'arrêter dessus, hein, parce que ça c'est quand même, on va dire, le cœur de l'éco-centre et je veux que vous nous expliquiez. Mais si vous continuez la balade, du coup, en dehors de ce grand bâtiment en pleine nature, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Alors, il y a beaucoup de végétation, parce que c'est aussi ça qui est important dans la vie, tout court. Et on accueille également une autre association sur le site qui est une association culturelle. Donc voilà, ça apporte aussi le quatrième pilier du développement durable, le côté culture qui, voilà, qui amène un autre public sur le site, une dynamique, une complémentarité du coup dans nos activités au quotidien.
Parce que les quatre piliers donc, du développement durable, si vous deviez les reciter, quels sont-ils ?
Alors il y a le côté environnemental, le côté économique et le côté social. Ça, c'est avec les trois piliers qu'on nous donne souvent, qu'on nous cite souvent. Mais le côté culture amène du coup un complément qui est intéressant et pour nous important. Ce n'est pas forcément le même public qui va être sensible à la culture, mais nous, on va lui amener une petite touche environnementale et sociale en plus. Et le public qui est intéressé plutôt par la porte d'entrée écologique, on va l'amener à réfléchir peut-être différemment grâce à la culture, à l'ouverture d'esprit qui est portée par la culture.
Alors Pierre et Terre est donc né en 1997. Aujourd'hui, donc, vous avez de nombreux partenaires, ai-je vu, de près de 180 partenaires. Vous êtes donc maintenant reconnu et soutenu, entre autres par la région Occitanie, mais on pourra en citer bien d'autres. Oui. Parlez-nous de ce bâtiment. Donc cet éco-centre, vous dites, il est démonstratif, exemplaire et performant. Dites-nous comment il a été construit et quelque part les prouesses qu'il accomplit de lui-même.
Alors je pense que déjà, enfin je l'ai cité, mais de ne pas avoir besoin ni de chauffage ni de climatisation, c'est quand même un objectif en soi presque, de ne pas avoir besoin de ressources énergétiques et se sentir bien. Enfin, moi, j'y travaille et j'y suis là tout de suite. Je peux témoigner, il fait bon toute l'année dans ce bâtiment.
Alors, comment vous avez fait ? En quoi est-il construit ? Comment faites-vous pour ne pas avoir à vous chauffer et puis pour maintenir, semble-t-il, des températures fraîches, même quand il fait très chaud dehors ?
Oui, alors, c'est en suivant les principes de la conception bioclimatique et en y apportant également la touche écologique, parce qu'en fait, un bâtiment bioclimatique peut ne pas être écologique en fonction des matériaux qui sont utilisés. Donc, les principes généraux, ça va être une ouverture très importante côté sud. Donc on a 80% de vitrage sur la façade sud du bâtiment. C'est un bâtiment qui est très bien isolé. Il y a 70 cm au niveau des murs de paille. C'est une construction qui est en paille porteuse. Donc c'est des grosses bottes de paille qui soutiennent la charpente du bâtiment. Il va y avoir de l'inertie, donc ça va être des matériaux qui sont lourds, compacts, qui vont permettre de stocker la chaleur et la restituer, et la fraîcheur du coup pareil en été. L'exemple pour bien comprendre, c'est si vous avez déjà été dans une vieille maison en été, une maison en pierre en été, il va faire frais. Ben, c'est ce système-là du coup qu'on va chercher à apporter, enfin ce principe-là, ces propriétés-là qu'on va chercher à apporter du coup dans un bâtiment, qui va permettre d'avoir une température à peu près constante toute l'année grâce au mix isolation et inertie. Et après, voilà, on produit également de l'énergie. On est
alors, vous produisez de l'énergie, vous pouvez le dire, donc vous êtes autonome en eau, vous produisez aussi votre énergie avec une éolienne. Donc le bâtiment, en fait, se suffit à lui-même. Il n'y a pas de production de mauvaise énergie autour de ce bâtiment. C'est comme ça qu'on pourrait résumer ?
Il y a effectivement ça, on produit plus d'énergie qu'on en consomme, c'est un bâtiment qui stocke du carbone grâce aux matériaux qui ont été utilisés, alors qu'un bâtiment conventionnel va plutôt en produire, alors que là du coup on en stocke, parce que c'est de la terre, c'est du bois, c'est de la paille, c'est de la laine de mouton, pour citer quelques exemples de ce qui m'entoure là actuellement. Et du coup, c'est que des matériaux qui sont sains. Donc, en plus d'être intéressant pour le côté bâtiment, c'est aussi intéressant pour le côté santé, parce qu'il ne va pas y avoir d'émissions de particules avec les colles, les plastiques, etc., qu'on peut retrouver dans d'autres bâtiments.
Alors, parmi vos piliers de l'éco-construction, il y a donc utilisation de matériaux locaux, utiliser les compétences locales pour créer des emplois locaux, faire en sorte donc qu'il n'y ait pas de déchets ou de pollution, et puis veiller à la qualité intérieure de l'air. Emmanuel Birlouez, quand on vit dans un éco-village, même l'éco-construction et ce type de bâtiment, c'est du classique, c'est des choses déjà vues et entendues, ça fait partie de l'horizon ou du jargon habituel.
Oui, c'est tout à fait classique. Enfin, c'est une des premières choses qui vient à l'esprit quand on va vivre, on pense à son habitat. Et cet habitat écologique, a priori, sous forme de terre, de paille, tous les ingrédients en fait, qu'on peut trouver facilement à côté de chez nous et qui requièrent très peu de compétences techniques.
Donc la paille, ce n'est pas une exception. Ça ne vous fait pas sourire, vous, la paille. Pour vous, c'est normal.
Non, voilà, c'est tout à fait normal. Et c'est même à diffuser, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est simple et performant. Ça n'a que des avantages, en fait. À part les temps de séchage qui sont un peu longs. Voilà, je dirais, c'est ça le problème. Nous, contrairement à ça, c'est que malheureusement, dans notre écolieu, on n'a pas pu encore construire. Et donc, on vit dans des habitats légers. Mais on se débrouille pour faire du terre-paille un peu partout, dès qu'on le peut. Mais voilà, on adorerait pour avoir tous nos habitats en terre-paille, évidemment.
Voilà, on y reviendra. Pour l'instant, vous vivez pour une bonne partie sous yourte. Oui. Véronique Thirbois, avant qu'on parle de l'éco-village et collectif, je vous laisse encore un petit peu la parole. Vous avez différents piliers, c'est-à-dire que donc il y a cet éco-centre, on va dire, qui est au milieu, dont vous êtes fier, hein, démonstratif, exemplaire, performant. Mais il s'en passe des choses en fait dans cet éco-centre. Vous travaillez donc à informer, à accueillir les publics, à former les gens, mais aussi vous allez jusqu'à accompagner des projets. Expliquez-nous, c'est-à-dire que on habite dans le Gers ou un peu plus loin, on a un projet de construction, par exemple, ou d'autres. On vient toquer à votre porte. Qu'est-ce qui se passe?
Exactement. Juste avant que j'oublie, pour une petite précision, ce type de construction, c'est accessible à tout le monde en termes de finances. C'est aussi, voilà, à noter, c'est pas un...
La paille n'est pas chère, c'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Oui, c'est possible. Voilà, c'est aussi un lieu qui montre que c'est possible d'avoir un bâtiment construit de manière cohérente. Qui est moins cher qu'un bâtiment conventionnel.
Alors maintenant, prenons une situation type. Donc, je suis un habitant du Gers ou au-delà. J'ai envie donc de construire un bâtiment, de faire des toilettes sèches chez moi, ou alors de travailler à l'épuration de mon eau et à vivre une certaine autonomie énergétique. Comment je fais? Je toque à votre porte. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, vaut bien appeler pour prendre rendez-vous, comme ça on est sûr d'avoir du temps pour à consacrer à votre projet. On peut vous présenter du coup un petit peu les grandes lignes de ce qui a été choisi du coup pour l'éco-centre. En termes de performance énergétique, c'est des choses qu'on va essayer de rechercher chez vous, si c'est un projet de construction et de rénovation également. La majorité des cas, c'est des projets de rénovation qu'on va accompagner pour que les personnes se sentent bien, en cohérence avec leur projet de vie.
Mais c'est-à-dire que vous, donc, à vous entendre, vous ne faites pas seulement un travail d'information, c'est-à-dire en fait, il y a quoi ? Il y a une petite équipe qui est déléguée et puis ils vont sur place et ils aident à faire le diagnostic, à réfléchir au projet, à faire les plans. Vous accompagnez de bout en bout ou c'est juste un travail d'information ?
Alors, il y a une première étape qui va être l'information. C'est un rendez-vous qu'on fait à l'éco-centre. Et après, effectivement, mes collègues peuvent se déplacer pour voir le bâtiment à l'intérieur, à l'extérieur. Faire des préconisations de travaux du coup plus poussés, plus adaptés. On peut faire des plans, on va conseiller par rapport aux techniques, aux matériaux, dans les objectifs de consommer moins d'énergie, de se sentir bien à la maison.
Et bien voilà, c'est l'éco-centre Pierre et Terre, donc il faut aller le visiter dans le Gers, et puis si vous avez aussi des projets, n'hésitez pas à vous tourner vers eux, un éco-centre qui rayonne, donc on peut, même si on est à la lisière du Gers. Quelques rendez-vous, le 17 juin, vous avez un atelier Parole et Corps, ou alors la Voltige des Insectes, et le 18 juin, le Club des Jardiniers, tout est à retrouver évidemment sur Internet. Et puis vous rappelez entre autres, et peut-être on va finir par ça, parce que vous mettez un coup de zoom, Béatrice Thirbois, donc sur les bâtiments, parce que vous dites que c'est énergétivore, comme on dit. Donnez-nous quelques chiffres, vous en citez sur votre site.
De tête, c'est 45% de l'énergie qui est consommée à l'échelle.
45% de l'énergie du secteur du bâtiment, oui.
Oui, donc c'est des choses énormes, sachant que nous, au final, on voit concrètement que c'est possible de changer quasiment du tout. Dans les projets de rénovation, on diminue de 50%. On peut aller jusqu'à 50% de consommation énergétique en moins, donc c'est des choses qui sont quand même assez impressionnantes et concrètes. C'est à peu près 150 projets de particuliers qu'on accompagne chaque année sur la thématique de l'habitat, mais aussi de l'assainissement écologique et des toilettes sèches, comme vous l'avez cité. C'est plus de 10 000 personnes qu'on touche chaque année, public, pas personne, parce qu'une une personne peut être comptée plusieurs fois, mais voilà, c'est même si on est dans le Gers, voilà, c'est des...
Eh bien, voilà un beau projet, un bel oasis. Merci beaucoup. On fait une deuxième pause et puis on va retrouver nos autres invités, Béatrice et Emmanuel Birloise, pour donc parler de l'éco-village et collectif. Et puis, eux vont nous donner leur témoignage, car ils n'ont pas toujours vécu sous une tente ou sous une yourte dans le commun. Je dis ça avec un sourire, mais vous allez voir, c'est une belle histoire.
Emmanuel Pella.
Les colibris Kézako, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, était avec nous en début d'émission Grégory David, qui est donc membre de ce mouvement des colibris et responsable communication et partenariat. Véronique Tirbois nous a présenté l'éco-centre Pierre et Terre dans le Gers, donc une fameuse oasis. Et Béatrice et Emmanuel Birloise vont nous présenter un autre oasis et surtout leur parcours de vie, donc l'éco-village et collectif. Alors on va commencer avec vous, Béatrice. C'est pareil, faites-nous un petit peu voyager. On trouve une vidéo sympathique sur votre site internet. Qu'est-ce que ce drôle de lieu et collectif où vous vivez dans des yourtes avec des salles partagées, tant pour la classe que pour se réunir et autres?
Alors, les collectifs, c'est 40 hectares de terrain, avec dessus une quinzaine de foyers. Qui vivent donc à l'année là comme résidence principale. Il y a une vingtaine d'adultes et une vingtaine d'enfants. La particularité de cet écolieu, enfin une des particularités, c'est que la plupart des enfants ne vont pas à l'école, enfin font l'école à la maison. Et donc du coup c'est un lieu qui a du coup beaucoup d'enfants dans ses effectifs.
Alors peut-être, on ne va pas détailler le lieu, et puis on y reviendra au fur et à mesure de votre témoignage, mais dites-nous quelques mots de la philosophie de ce lieu. Quand on regarde, on voit des mots comme honnêteté radicale, bienveillance radicale, comme forme de gouvernance aussi différente, souveraineté individuelle et confiance dans le collectif. Que recouvrent ces mots? Quelle est la philosophie du lieu, Béatrice?
En fait, il y a quatre piliers dans ce lieu. C'est la communication non violente. Donc, c'est là où on va se recentrer sur ce qu'on ressent, quels sont nos besoins et savoir faire des demandes, voilà, auprès des autres. D'où l'honnêteté radicale et la bienveillance, effectivement, quand on communique avec le voisin. Un autre pilier...
La bienveillance radicale, ça veut juste dire ça, en fait. C'est-à-dire qu'on choisit une bienveillance et un mode de communication.
C'est-à-dire l'honnêteté sans la bienveillance, ça fonctionne pas. Hein, c'est balancer à l'autre ce qu'on pense. Voilà, donc il faut les deux, et c'est à l'intersection des deux qui...
D'accord, donc ça c'est, on va dire, c'est le rapport à l'autre. Après, on vous parlait aussi d'un rapport au pouvoir de décision. C'est un autre pilier donc ?
Oui, c'est notre mode de gouvernance, c'est se base sur des principes de sociocratie. C'est-à-dire qu'on a une réunion par semaine où qui veut du collectif vient et on prend des décisions... au consentement, c'est-à-dire à la non-objection. Voilà, c'est pas forcément qu'on est fan de ce projet-là, mais on n'a pas d'objection à ce que la personne vive ça sur ce lieu, quoi.
Donc, et à l'unanimité, alors, c'est ça ?
L'unanimité, c'est 100% pour.
Ouais.
Là, c'est 0% contre.
D'accord.
On n'est pas forcément enthousiaste, mais on ne voit pas ce qui nous empêcherait de vivre avec cette décision.
Donc consensus avec zéro objection, c'est comme
voilà.
Ça qu'on dit ?
C'est l'idée, contrairement à la démocratie, qui va mettre de côté une partie plus ou moins importante, inférieure à 50%, mais quand même importante, de côté. Là, on essaye que, finalement, on s'accorde tous à trouver la stratégie qui va nous permettre d'être tous OK.
Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et vous disiez qu'il y en avait ?
Il y en a quatre.
Les deux autres, c'est ?
Le concept du continuum, c'est tiré, enfin, c'est à la suite de la lecture d'un livre du même nom. Et c'est l'idée qu'il y a une continuité dans la vie, dans l'interaction les uns par rapport aux autres.
Elle vous jette la patate chaude. Elle est peut-être arrivée plus tard que vous.
Oui, en fait, c'est l'étude d'un village autochtone en fait, qui n'a pas connu la modernité. Et donc, on voit dans ce village un peu s'exprimer la nature humaine. Voilà, le fonctionnement qui est issu de la nature humaine et qui n'a pas été dévoyé par la modernité. Et donc, de là, elle essaye de comprendre un petit peu ce qui fait ça. Et donc, finalement, notre attachement à ça, c'est l'attachement à l'équivalence, au fait de pouvoir considérer tout le monde comme une personne, un enfant comme un vieillard. Le fait de pouvoir aussi ne pas créer de frontières entre l'activité personnelle, l'activité familiale, l'activité professionnelle. Voilà, vivre tout ça comme un continuum, en fait. Continuum de vie, continuum d'activité, voilà.
Donc, premier pôle, vous l'avez décrit, donc c'est un rapport aux autres marqué donc, par l'honnêteté radicale et la bienveillance radicale, si on devait résumer. Après, donc, une forme de décision et de pouvoir qui est donc le consensus zéro objection. Le continuum, le quatrième pilier, c'est ?
La permaculture, en fait, c'est le rapport à la nature.
Alors la permaculture, il faut un tout petit peu développer ce que notre invité du mouvement des colibris, on a Grégory David, l'a très rapidement présenté. Si vous deviez la résumer, c'est...
Oui, disons que souvent on aime bien résumer ça en disant que c'est au-delà de faire son potager, en faisant des buts, permaculture, souvent c'est un peu réducteur. C'est une vision globale de comment on s'intègre dans un écosystème et qu'on travaille avec et pas contre. Voilà, et donc c'est une réflexion, c'est un design, c'est-à-dire c'est assez intellectuel au départ de pouvoir considérer quels sont nos besoins et donc comment on va faire en sorte que ces besoins soient le plus facilement et le plus efficacement réalisés, assouvis. Et donc dans la façon de créer son habitat, dans la façon de où est-ce qu'on va implanter chacune de nos activités. On parle de zones notamment en fonction de là où on a du passage. C'est pas le plus proche qui va être la zone finalement où on va avoir le plus de surveillance, le plus de présence. Donc c'est tout un design en fait de notre quotidien.
On entend en tout cas que c'est une manière de faire avec le réel et d'essayer d'être aussi au service de la création et pas seulement de mettre la main dessus pour faire écho aussi à un peu ce qu'on disait de la pensée de Pierre Rabhi. Alors vous êtes venu aussi, pas seulement pour parler ou pour présenter donc ce lieu, les collectifs, mais pour parler à la première personne et pour nous raconter votre parcours. Alors je vais, poser les bases et puis vous allez nous dire comment vous avez atterri dans cet écolieu dans le Comminges. Vous me disiez en préparant l'émission que vous êtes l'un et l'autre plutôt issus de familles dites classiques. Alors classique, ça a deux profils différents dans votre vie. Plutôt pour vous, Béatrice, famille catholique de l'Ouest parisien. Et pour vous, Emmanuel, plutôt famille, vous disiez, de gauche intellectuelle. Alors vous avez commencé votre vie, on va dire, normalement. Et puis à un moment, vous avez eu envie de vous déscolariser, à vous entendre, en suivant un peu vos enfants. Ça veut dire quoi, Béatrice ?
C'est-à-dire qu'on avait une vie effectivement relativement classique. Monsieur travaillait, moi je suis ostéopathe, donc je travaillais un petit peu, mais relativement peu, vu qu'on a eu trois enfants, une dizaine d'années. Non, d'ailleurs en 6 ans, pas en 10 ans.
Ce qui n'est pas si classique que ça déjà, mais allez-y, continue.
Non, mais et donc du coup, voilà, on avait une organisation de vie assez basique et tout se passait bien. Sauf que Thaïs, donc notre aîné, sentait mal à l'école. Et quand ça a pris trop d'ampleur, le médecin nous a proposé de la mettre sous antidépresseur. Et là, on s'est dit, va falloir qu'on pense peut-être les choses autrement. Et voilà. Et on s'est doucement, mais sûrement, on a glissé vers l'école à la maison.
Alors, vous avez rencontré donc des non-sco, comme on dit, et puis de fil en aiguille, donc vous avez visité ce lieu, donc l'éco-village et collectif en Haute-Garonne. Vous-même, Emmanuel, vous disiez que vous aviez envie de vous déscolariser. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire, alors que j'étais très satisfait dans ma vie a priori, j'avais un travail, une famille, une maison, je suivais un peu l'ordre social. En fait, quand j'ai observé cette autre façon de vivre, ça m'est arrivé vraiment en pleine figure et j'ai tout de suite compris qu'en fait j'avais envie d'utiliser mon énergie et mon intelligence à autre chose que une activité qui présentait pas de sens, quoi. Et donc j'avais envie de reprendre la main sur...
Qu'est-ce qui vous a autant frappé dans ce que vous avez vu, du coup ? Et vous vous êtes dit, là, c'est...
Des choses qui ont frappé, c'est tout simplement d'arriver à l'improviste à un endroit et puis les gens ont du temps à vous accorder. Qu'on est entouré de nature, c'est-à-dire qu'en plus, là, à Écollectif, on vit la plupart en yourte, et donc c'est vraiment dans un écrin de verdure. On peut pas être... toutes les portes mènent dehors. Et donc, une simplicité de vie, une vie de village, un peu comme moi, ça m'a fait penser à les voyages qui m'avaient passionné en Afrique, par exemple, où il y avait cette simplicité de vie, ce rapport au temps, ce rapport au travail qui est totalement différent, qui est présent partout, mais de façon très, très, très différente que dans nos vies classiques.
Béatrice, vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur le premier choc ? On dit que l'effet paillasson, c'est le plus important. Alors, il n'y a peut-être pas de paillasson, mais qu'est-ce qui vous a frappé au début et qui fait que ça vous a mis en chemin comme ça ?
Alors, ce qui m'a mis en chemin au début, c'est que j'avais aucune envie et aucune intention d'aller vivre là-bas. Parce que ça me faisait terriblement peur. C'était tellement éloigné de tout ce que j'avais imaginé pouvoir vivre pendant ma vie.
Donc il n'y a rien qui vous a plu, vous, au début.
C'est tout qui m'a plu, mais tout qui m'a fait peur. Et donc, ça a été plusieurs mois juste pour absorber tout ça. Ce qui m'a plu, c'est beaucoup le rapport aux enfants, à la jeune classe, où on prend le temps de discuter avec eux, de les entendre, de les comprendre et de voir comment on peut sortir gagnant-gagnant d'une situation et leur laisser la place d'être créateur de solutions quoi, et de stratégies, et que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on a raison. Alors, ça, c'est un truc qui m'a bien plu.
Expliquez alors, maintenant que vous y êtes, donc ça veut dire quoi en fait NONSCO, pour ceux qui connaissent pas, comment se fait la scolarisation et l'apprentissage dans cet écolieu?
Alors déjà, je voudrais juste rappeler que l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire en France. Voilà, c'est une petite distinction qui est de taille. L'instruction dans cet éco-village se fait chacun dans sa famille. Donc il y en a qui vont faire un apprentissage très formel, d'autres où ce sera beaucoup plus vivons les choses au jour le jour, et puis un jour mon enfant aura envie d'apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Et toutes les situations de vie du quotidien font, en fait, on se rend compte que les enfants apprennent énormément en comptant le nombre de graines qu'ils vont mettre dans un poquet, en partageant un gâteau avec des copains au goûter.
En faisant des travaux manuels aussi.
La cuisine, oui, tout.
Oui, la cuisine. En fait, tout le quotidien est truffé de moments où les enfants apprennent. Et on s'en rend compte notamment sur notre dernier, là, qui a 5 ans. Les apprentissages formels... sont de moins en moins présents, et pour autant, on s'est rendu compte avec l'inspection qu'ils savaient compter jusqu'à 25 parfaitement, qu'ils connaissaient les couleurs, les formes géométriques, etc. Bon, voilà. Et clairement, c'est pas nous qui lui avons appris, c'est lui qui a appris seul.
Votre petit dernier qui se balade autour des studios, et je peux vous dire qu'il a de l'énergie, on l'entend presque bondir. Ça, c'est pour les enfants. Et alors, vous, sur place, donc il y a, vous me disiez, un boulanger, menuisier, il y a des gens qui ont des activités à l'extérieur de coaching, vous êtes donc ostéopathe, Béatrice, vous consultez un petit peu, il y a des profs, donc il y a un peu intérieur-extérieur. Par exemple, Emmanuel, comment vous vivez, quelle est votre activité aujourd'hui?
Alors notre activité tourne autour de l'élevage d'alpaga et la transformation de la laine. On a... Quand on est arrivé à l'écolieu, on n'avait pas d'idée précise de ce qu'on voulait faire. Et professionnellement, on voulait travailler sur place, dans l'agricole. Et en fait, travailler dans l'alimentaire, c'est un peu la porte d'entrée pour tout le monde, on va dire. Hein. On va être boulanger, maraîcher, pépiniérier, etc. Tout ça, c'est déjà pris, on va dire. En tout cas, il y a des gens qui s'en occupent. Nous, on s'était intéressé beaucoup à l'aspect vestimentaire, qui est aussi un des besoins fondamentaux, hein, de se vêtir, et qui est, dans la modernité actuelle, est extrêmement... toxique pour la planète, voilà. Et dans une dimension de consommation, de déchets assez terrible. Et donc, on a essayé de mesurer, donc c'est pour ça qu'on a fait cet élevage, et aussi parce que ça nous passionne, hein, l'élevage et la transformation de la laine, mais pour mesurer qu'est-ce que ça veut dire que de faire soi-même ses habits de façon résiliente, vraiment sans dépendre d'éléments extérieurs auxquels on n'a pas prise, quoi.
Alors, ça donne quoi aujourd'hui, du coup?
Ça donne qu'on a 33 alpagas
34
aujourd'hui.
34 depuis tout à l'heure.
Voilà, bravo. On a une petite naissance juste avant de partir qui s'est bien passée, donc on est venu quand même. Et on a un atelier de transformation, et donc on fait tout depuis la naissance jusqu'aux vêtements finis, à part une partie de la laine qu'on envoie dans une microfilature. Donc c'est une dame qui a des équipements qui nous permet de faire le fil, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très long. Et donc voilà, et ensuite on va en direct aussi. Donc,
Alors vous me disiez en préparant l'émission que vous arriviez à vivre aujourd'hui avec 300 euros par personne. Je me permets de le redire, oui. J'espère ne pas trahir de secret, mais ça dit aussi donc, cette sobriété que vous essayez de vivre. Et puis je ne vous prends pas à défaut, je me suis dit que j'allais me faire le porte-parole peut-être de certains auditeurs. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous répondriez aux questions, aux a priori que vous connaissez?
Oui. Eh bien, le premier objectif pour vivre de son travail, c'est déjà de dépenser peu, d'avoir besoin de peu d'argent. Donc voilà, parce que notre travail, là, il est là pour gagner les euros qui vont nous permettre d'acheter ce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. L'idée, c'est avant tout de travailler. Et donc là, on a encore des marges de progrès. Mais c'est vrai que quand on vit dans un écolieu comme le nôtre, par exemple, se loger, ça nous coûte 130 euros par mois, voilà, pour 5. Donc, effectivement, ça laisse...
Ça, c'est le prix, entre guillemets, de la location de la yourte,
voilà.
C'est
de la... Alors, la yourte nous appartient, on l'a construite sur place, mais le fait d'être ici toute charge comprise, c'est 135 euros.
Et déjà, ça fait un...
Donc, ça laisse un budget pour le reste. Voilà, exactement. Les vêtements, par exemple, c'est un budget important. Bah, nous, les vêtements, c'est soit Béa qui les fait, parce qu'elle coûte beaucoup, soit de la récup. Donc, c'est une ligne encore en moins. Ensuite, c'est les transports. Ça va être les transports, nous, principalement, ça va être les activités des enfants. Et donc, c'est beaucoup de covoiturage, mais ça reste quand même un peu de...
Alors, on a compris pour les lignes en moins, mais alors les lignes en plus?
Eh bien, nous, c'est... Alors, la ligne en plus qui a augmenté, c'est nos frais de dépenses alimentaires. Voilà,
ouais, ma question plus précise, c'est comment vous arrivez à vous en sortir financièrement? Est-ce que quelque part, c'est une douce utopie ou est-ce que c'est jouable, comme on dit?
Alors, c'est-à-dire, donc la première étape, c'est d'essayer de dépenser le moins possible pour qu'en fait notre activité, tout en étant tout à fait cohérent dans son activité, puisse subvenir à nos besoins. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça fait que 2 ans qu'on a créé cet élevage et donc on apprend encore énormément de choses. Mais dans un futur proche, on saura subvenir, et c'est l'objectif, totalement à nos besoins. Aujourd'hui, effectivement, on bénéficie, comme tout le monde, des allocations familiales notamment.
Mais c'est un lancement d'activité, en tout cas, c'est comme ça que,
exactement,
que vous l'envisagez. Pour finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre chemin de foi, puisque à vous entendre et à entendre donc votre parcours, vous me disiez que quelque part, vous avez sauté le pas. Vous avez choisi en fait une vie radicalement différente de celle de beaucoup d'entre nous. Vous avez choisi de vivre dans le monde d'après, en tout cas le monde que certains appellent de leur vœu. Et après est venu donc un chemin de foi. Expliquez-nous un petit peu, Emmanuel.
Tout simplement, effectivement, on a la rencontre s'est faite autour de la rencontre d'un curé aussi de famille croyante dans le coin, qui était aussi dans le domaine alternatif, et du texte de Laudato Si. Et effectivement, ça m'a fait rentrer en cohérence, on va dire, entre ce que moi je vivais par rapport à cette cohérence écologique, on va dire, et de mode de vie, en fait, de nouveaux paradigmes que je souhaite de mes voeux. Et en fait, le sens en fait que je trouve dans la foi la création, l'humilité face à cette création, et aussi tout le travail, on va dire, individuel qu'on fait dans la relation aux autres, qui est le premier écueil, on va dire, quand on vit en collectif. Et bien derrière, on est nourri à 100% par notre pratique de la foi aujourd'hui. Donc c'est arrivé maintenant et j'y tiens fort. En tout cas, ça reste récent, mais...
Béatrice, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez quelque part choisi de cette sobriété heureuse et après est venu comme une illumination le regard de la foi? Est-ce que vous n'êtes pas obligé de nous donner les détails, mais en tout cas, c'est un... Comment dire? Ça s'est fait à contrario de ce qu'on pourrait imaginer pour beaucoup.
Ce qui est important pour moi, c'est surtout que j'ai redécouvert ma foi... à l'occasion, en fait, de vivre dans la nature, etc. Avec la lecture de Laudato Si. Je crois que ce qui a été important, en fait, ce qui est difficile encore parfois pour moi, c'est d'assumer pleinement mon choix de vie par rapport à la famille, les amis, et voilà. Et ça, je crois que c'est le truc qui me rattrape le plus encore aujourd'hui. Et avec la lecture de Laudato Si, je dis, ah ouais, non, mais en fait, ce chemin, il m'amène vraiment vers la vie, et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'arrive à faire taire tout mes peurs du jugement.
Eh ben, merci beaucoup d'être venus tous ce matin nous parler donc des colibris, de ces oasis et de vos chemins de vie. Quelques informations pour finir. Donc, l'éco-centre Pierre et Terre, c'est dans le Gers. L'éco-village et collectif, c'est donc en Haute-Garonne. Vous pouvez trouver sur le site des colibris tous les oasis et ceux qui peuvent vous accueillir pour vous aider à faire du chemin ou vous faire bon accueil, comme ça a été le cas pour Emmanuel et Béatrice. Et puis ce livre de Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, paru aux éditions Babel Actes Sud. On peut même citer un autre, Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée, celui-là de Pierre Rabhi avec Juliette Duquesne, est paru aux presses du Châtelet. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.